Je vais finir cette série par une réflexion récente, tout récent, qui n'est même pas posté, tellement il est récent, parce que mes jeunes, plus jeunes collaborateurs veulent le publier dans des revues de machine learning qui demandent qu'on ne poste pas les choses avant de les avoir soumises, donc c'est le cas. Mais j'ai le droit d'en parler quand même. Donc, c'est un travail qui est joint donc, avec des gens que j'ai déjà cités, Oukosh Jagannath, qui est à l'Université de Waterloo au Canada, et Reza, j'aurais dû dire, bon, c'est pas l'ordre alphabétique, mais Reza Ghesari, qui est à Berkeley. Donc ce qu'on fait ici, on se pose la question suivante. Je vous ai parlé la dernière fois de plusieurs exemples. Maintenant, on est toujours dans nos questions de paysage de l'inférence statistique en grande dimension, ou de la science des données, ou du machine learning. Le mot important, là, c'est grande dimension. Et la dernière fois, je vous ai parlé de situations de rang 1. C'est-à-dire aussi bien, quand je vous ai donné l'exemple de TensorPCA, que je ne sais même pas dire, l'analyse en composante principale pour les tenseurs, ou bien je vous ai donné d'autres modèles, d'autres exemples de rang 1. Ce qui voulait dire quoi ? Ce qui voulait dire que le coût, la fonction de coût, la population loss, la vraie fonction de coût, l'espérance de la fonction de coût, était une fonction d'un seul vecteur, d'accord ? D'un objet de rang 1. D'accord ? C'était le cas dans TensorPCA, c'était le cas dans les autres exemples. Et avec ça, on a analysé, je vous ai dit qu'on pouvait analyser les algorithmes naturels, des centres de gradient, Langevin, et surtout des centres de gradient stochastique. D'accord ? Et je vous ai expliqué cette question, au moins dans cette situation simple de dimension 1. Vous vous souvenez peut-être qu'on a vu sortir... Parce que c'était la dimension 1, finalement, on avait regardé un système dynamique en dimension 1, parce que c'était dans 1. Et ce système dynamique, on a vu, vous vous souvenez, la difficulté d'échapper à l'équateur, par exemple, dans TensorPCA, qui correspondait à un point stable de ce système dynamique, donc un système dont un point dont on ne s'échappe pas, et que quand vous partiez d'une initialisation aléatoire, vous partiez de ce point-là. Et je vous rappelle qu'on avait introduit un exposant, qu'on avait appelé le... Information exponent, qui disait suivant qu'il valait 1, 2 ou plus que 3, qui disait que le modèle était facile, critique ou difficile. D'accord ? Donc le temps qu'il fallait pour échapper à cette médiocrité, à l'entropie, qui correspondait à un point stable d'un système dynamique de dimension 1, était grand. OK. Donc tout ça, c'était bien, c'était de la dimension 1. Et on aboutit à un système dynamique qu'on pouvait écrire très simplement, par exemple dans TensorPCA, qui est en dimension 1, une équation différentielle ordinaire polynomiale. En dimension 1, tout le monde sait la résoudre. On n'a pas besoin de beaucoup d'expérience sur les systèmes dynamiques. Mais bon, maintenant, la question, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons que cette situation soit celle que vous observez dans un cas concret. Il n'y a pas beaucoup de raisons que le signal soit de rang 1. D'accord ? Alors, en fait, quand vous regardez un problème vraiment concret sur des données, non pas un problème où vous êtes posé, que vous êtes posé abstraitement, il n'y a même pas vraiment de raison que vous sachiez la dimension du signal. En fait. Allez. Alors, je vais commencer donc ici par traiter le cas où on suppose qu'il y a un signal, en fait, et qu'il est de dimension finie. On pourrait la supposer divergente, mais petite par rapport à la grande dimension. Mais là, je vais la supposer finie. Ça peut être de dimension 18. D'accord ? Et on va s'apercevoir que le système, la descente de gradient stochastique, je vais vous donner un théorème de convergence vers qui est un petit peu abstrait, difficile à cerner initialement, qui va nous donner des convergences vers des systèmes dynamiques variés, en fait, et relativement compliqués. Y compris avec des modèles simples, beaucoup plus riches que la structure en dimension 1 que je vous ai décrite précédemment. D'accord ? Je vais vous donner un exemple de classification toute simple qu'on appelle pour le OU exclusif, pour le XOR, des plus simples que vous puissiez faire, avec un réseau très simple à deux couches. Et vous verrez qu'on est en dimension 22, qu'il y a 625 points, variétés critiques, et dont 24 stables. D'accord ? Donc les choses se mettent à devenir d'un seul coup beaucoup plus riches et intéressantes. Alors on va commencer tranquillement. Je vais vous rappeler les choses élémentaires sur les algorithmes de gradient stochastique. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans les algorithmes de gradient stochastique? Alors, d'abord, j'en ai déjà parlé, donc. Donc ça veut dire stochastic gradient descent. Donc ce sont des algorithmes qui sont vraiment installés, c'est véritablement ceux qui sont utilisés chaque fois qu'on fait de l'optimisation pour ce genre de choses. Il y a plein de variantes, vraiment beaucoup, et ils sont anciens, ils ont donc été analysés depuis longtemps. Donc j'avais oublié la dernière fois, j'ai vérifié, Robbins-Munro, l'article qui les introduit, c'est 1951. D'accord, donc ça fait 70 ans, 71 ans, on a eu le temps de prouver des théorèmes et puis surtout de se rendre compte que c'est l'algorithme qui marche bien. Donc, et depuis, il y a une longue littérature. Si vous voulez, la littérature, ça a été analysé assez longtemps, ça a été analysé assez mathématiquement dans les années 80-90 en France, en fait, alors autant citer, par Michel Benahim et avant par Marie Duflo. Donc vous avez la littérature ancienne, là, mais qui donne des résultats... l'état de l'art à ce moment-là. Mais depuis, si vous cherchez, Stochastic Gradient Descent online sur Google Scholar et vous mettez pas le mot convergence, vous allez être littéralement inondé de références. C'est colossal. D'accord, là, parce que c'est véritablement intéressant et utile. Alors, qu'est-ce que c'est que l'algorithme de Stochastic Gradient Descent? Voilà la structure. Vous voulez minimiser. Donc, vous avez une fonction L, on a vu plusieurs exemples, une fonction de coût, qui dépend d'un paramètre que j'avais peut-être appelé θ avant, que j'avais appelé x ici, et d'une variable y. D'accord ? Alors, mon x, il va être dans un espace important de noter les dimensions, mon paramètre va être dans un espace de dimension n, et ma variable y, elle va être dans un espace de dimension d. Bien sûr, ça peut être un sous-ensemble. Par exemple, dans les exemples que je vous ai traités, on regardait la sphère comme espace des paramètres. Mais bon, là, maintenant, pour unifier tout, je vais mettre tout sur Rn. Donc, on pourra aussi traiter le cas de tensor PCA, mais il faudra rajouter un terme pour contrôler le rayon. Okay. Et maintenant, cette fonction donc, est à valeur dans R, c'est un réel. Et typiquement, alors bien sûr, beaucoup des travaux sont dans des situations où elle n'est pas vraiment... régulière, mais on va supposer que c'est régulier pour commencer. Et la question que vous voulez vous poser maintenant, c'est que vous voulez en fait minimiser la fonction que je vais appeler phi, qui est l'espérance de L, de X et de Y. Donc ça veut dire que vous êtes donné une loi de probabilité P sur RD, d'accord ? Et vous intégrez donc pour cette chose-là, et vous cherchez à minimiser. Donc le problème, c'est minimiser. Donc rappelez-vous comment on appelait ça dans les exemples que j'ai déjà traités. Ça, c'est ce qu'on appelle le population loss. Désolé, je ne sais plus traduire en français. D'accord ? Ça, par contre, je peux corriger une faute d'orthographe. OK ? Donc minimiser phi. Alors bien entendu, en pratique, vous ne connaissez pas phi. Parce que, comme c'est un problème de statistique, cette loi P, elle est inconnue pour vous. C'est la loi des données, vous ne la connaissez pas. Mais ce dont vous disposez, c'est que vous avez à votre disposition, vous avez des données qui sont simplement, dans la situation la plus simple, un échantillon donc de distribué suivant P. Donc, vous n'avez pas la loi P, mais vous avez une approximation qui est la mesure empirique donnée par ces données. D'accord ? Donc, comme avant, nous avons trois paramètres. J'espère que j'ai bien pris les mêmes notations. N pour la dimension du paramètre, grand D pour la dimension des données et grand M pour la taille de l'échantillon. D'accord ? Et maintenant, donc vous disposez de ces données, vous cherchez à minimiser phi. OK ? Donc, une des façons de faire, c'est bien sûr... d'introduire, peut-être, vous arrivez à lire ici ? Ouais. D'introduire le risque ou la perte empirique. Qui serait donc, disons, l'approximation naturelle de cette espérance, c'est-à-dire 1 sur m. Donc ça, c'est la stratégie numéro 1. Ce n'est pas celle qu'on va utiliser, mais c'est la stratégie numéro 1. Donc, la plus naturelle. Vous prenez le risque empirique Et vous dites maintenant, ici, j'ai une fonction à laquelle j'ai accès. Ça a été le point de vue de l'essentiel de ces cours. Et vous cherchez à minimiser le risque empirique, la perte empirique, parce que c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas vraiment minimiser phi, puisque vous n'avez pas accès à phi. Et vous espérez bien sûr que si vous êtes dans un régime où grand M est très grand, suffisamment grand, vous pouvez espérer que minimiser cette fonction-là va vous renseigner sur le minimum de phi. Okay. Bien entendu, il y a besoin de beaucoup de théorèmes. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce cours? C'est que, par exemple, si vous vous souvenez du problème de TensorPCA, ce problème-là, cette fonction-là, cette fonction ici, c'est une fonction d'un très grand nombre de variables, parce que moi, je voudrais que grand n soit grand, est aléatoire. Et rappelez-vous, cette fonction dans le cas de TensorPCA, c'était le vert de spin dans la situation sphérique, c'était le vert de spin sphérique, plus un terme de rang 1. Ce terme de rang 1 étant cette fonction-là. D'accord ? Donc on peut faire cette décomposition en général. Appelons H de xy le L de xy moins sa moyenne. D'accord ? Donc ça maintenant, quand vous prenez les y, ce sont des variables aléatoires qui vont être centrées. D'accord ? J'ai juste centré. Et donc on peut bien sûr écrire cette chose-là comme 1 sur m, somme des h de x, y, i moins phi de x. D'accord ? Donc ici, j'ai fait cette décomposition du risque empirique en une partie centrée et la moyenne. D'accord ? Plus peut-être. Plus phi de x. D'accord ? Et bien sûr, vous espérez que cette partie-là, puisque H est centrée, si M est suffisamment grand, vous espérez que cette partie-là est suffisamment petite et que c'est celle-là qui va mener le jeu. Rappelez-vous donc ce qu'on a fait dans le cas de TensorPCA. Dans le cas de TensorPCA, ça, c'était le vert de spin. Et ça, c'était une fonction très simple de rang 1. Mais on se rappelle que ce vert de spin vous donnait un paysage qui pouvait être très très compliqué. Donc ce n'est pas si évident que ça. Qu'on puisse, en minimisant le risque empirique, on puisse minimiser le risque. Et rappelez-vous que pour le faire, on avait besoin, pour être sûr que ça marche pour des algorithmes, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est pour que ça marche avec des algorithmes locaux, donc de gradient stochastique, il fallait que le rapport signal-bruit soit très grand, plus grand que n puissance p moins 2 sur 2. D'accord ? Donc il fallait un très fort signal pour que ce terme-là n'intervienne pas trop et que l'entropie aussi initiale n'intervienne pas trop. D'accord ? Bien, c'était ça l'histoire. Alors, donc, je vous rappelle, donc, la difficulté, c'est que ce phi m chapeau, le risque empirique ou la perte empirique, est une fonction qui peut être complexe. Il y avait deux grandes difficultés. Donc, celle-là, elle peut être topologiquement complexe. C'est ce qu'on a vu dans les... Et il y avait cette difficulté-là, les problèmes, c'était ça. Et puis, le problème de l'entropie, échapper à l'entropie dans la phase initiale, ce que les gens appellent souvent la search phase, la phase de recherche. Donc ça, c'était les deux grandes difficultés qu'on a vues dans les exemples simples que je vous ai donnés. Et cette information exponent dont je vous disais, vous permettez de classifier la difficulté du point 2. D'accord ? Donc les exemples qu'on a traités... Les exemples qu'on a vus, c'était une situation où phi de x était une certaine fonction psi, disons, d'une fonction m de x, où m était de rang 1, où m allait de Rn dans R. D'accord ? Rappelez-vous, ce m, dans notre cas de TensorPCA, c'était la latitude. C'était le produit scalaire avec le signal. D'accord ? Et cette fonction psi, c'était juste cette fonction-là à la puissance p, essentiellement. D'accord ? Donc ça, c'était la situation type... je vous en ai montré d'autres, mais ça, dans le cas de TensorPCA, on a vu ça. Et dans les autres exemples dont j'ai parlé la dernière fois, étaient de cette nature-là. Ici, l'important, c'est que ce m va dans R, donc c'est de rang 1. Il y a une seule fonction. Donc il y avait ici, si vous voulez, Et naturellement, comment on a décrit la dynamique de stochastic gradient descent pour ces modèles-là, on s'est restreint à l'évolution de M, de cette statistique-là qui résume. Parce que maintenant, passons à un problème plus général, cette question-là en général, disons, c'est évident que ça va être difficile à décrire parce que notre système est en dimension divergente. Je vais faire maintenant tendre ce grand N vers l'infini, ce grand D vers l'infini. Le système est en dimension divergente, donc le théorème limite est un peu compliqué à énoncer. Par contre, c'est naturel de se dire, j'ai envie de projeter ce théorème limite, sur ce système en dimension très grande, sur une dimension plus petite, et regarder l'évolution de cette dimension plus petite. C'est ce qui se passait dans la situation qui était là-bas. D'accord ? En général, bien sûr, quand vous avez une évolution raisonnable, je ne vous ai pas encore dit ce que c'était SGD, je vais le dire dans une minute, quand vous avez une évolution raisonnable, ce n'est pas du tout évident que quand vous... En général, c'est complètement faux, que quand vous projetez en dimension petite, vous ayez quelque chose d'autonome. Il n'y a aucune raison pour ça. D'accord ? Dans la situation où on était, c'est ce qui se passait néanmoins. On obtenait une évolution autonome de M. D'accord ? C'était ce fameux système dynamique en dimension 1. Bon, avec tout ça, il est peut-être temps que je vous dise ce que c'est. Donc cette première approche, si vous voulez, c'est vous avez ce risque empirique, et ensuite vous faites donc la descente de gradient sur le risque empirique, où vous faites Langevin. C'est ce que je vous ai décrit initialement sur ces questions-là. Donc vous avez cette fonction compliquée qui approxime la fonction inconnue et vous faites une descente de gradient ou de Langevin sur cette fonction compliquée. Okay ? Ça a donc la difficulté que vous ne savez pas, en fait, il vous faut énormément de données pour être sûr que le risque empirique est suffisamment proche du risque vrai pour que ça ait une chance d'être correct ce que vous faites là. Il y a une autre approche qui est donc le gradient stochastique qui consiste à faire la chose suivante. Vous avez toujours cette situation-là. Mais au lieu de faire ça, je vous l'ai déjà décrite, hein, le gradient stochastique la dernière fois, mais je vais recommencer doucement maintenant. Au lieu de faire ça, vous faites la chose suivante. Vous faites l'algorithme, donc le descente de gradient stochastique. Là, ce que je vous le décris, c'est la version que j'avais appelée online. Vous regardez la chose suivante, l'évolution, vous cherchez à trouver x, vous faites évoluer x, donc vous démarrez avec un x à l'instant 0 qui est donné par une certaine loi mu de probabilité, donc sur Rn, ça c'est votre initialisation. Rappelez-vous, dans le cas du tensor PCA, on démarrait avec quelque chose pris au hasard sur la sphère, ce qui vous donnait quelque chose qui essentiellement partait de l'équateur. Et là, vous faites l'évolution la plus simple possible. Vous faites ça, moins delta gradient de L, de X et de YT, moins 1. OK ? Donc c'est très très simple. Au lieu de prendre le gradient du risque empirique, je prends juste le gradient de la fonction de perte au point peut-être xt, là, d'accord, pardon, ça dépend comment on numérote. J'ai cette série de données y1, ym, je les prends successivement et je suis le gradient de la fonction de perte dans la direction de ma dernière donnée. D'accord, donc ça correspond... Alors, le delta, il va falloir le choisir bien entendu, ça c'est ce qui s'appelle le... Step size, comme on dit step size en français. Pas de discrétisation. Vous voyez que... Alors, vous pourriez faire quelque chose d'intermédiaire entre ce que j'ai écrit là et la descente de gradient. Qu'est-ce que serait la descente de gradient ? Qu'est-ce que serait une descente de gradient pour le risque empirique ? Ça serait ça. Mais ici, je mettrais le gradient du risque empirique. Et le gradient du risque empirique serait juste ça. Donc vous voyez la différence. Ici, j'utilise toutes les données à chaque pas. Ici, j'en utilise une par une. Ça, c'est les cas extrêmes. Vous pourriez faire quelque chose d'intermédiaire. Vous pourriez choisir ce qui s'appelle un... Alors, encore une fois, je ne sais pas le mot en français. Un batch. C'est-à-dire, vous pourriez choisir maintenant, au lieu de choisir toutes vos données, ou d'en choisir une seule, vous pourriez choisir un batch de taille 10. D'accord ? Et ça, c'est le batch à l'instant T. Vous choisissez comme vous voulez. D'accord ? Et vous pourriez faire ça. Ça, c'est donc vraiment la dynamique de gradient stochastique un peu générale. Quand vous faites ça, vous voyez, quand vous prenez la taille du batch, toutes vos données, vous avez la descente de gradient sur le risque empirique, ce qu'on a décrit avant. Et quand vous prenez la taille du batch qui est égale à 1, vous avez ce cas extrême de online stochastic gradient descent. D'accord ? Bien entendu, donc cette littérature considérable étudie tous les cas. Il y a une autre chose à laquelle il faut faire très attention, qui est vraiment joue un rôle important, c'est le step size. Vous voyez bien que... Alors vous pouvez essayer de le prendre très petit ou plus grand. Vous pouvez aussi le rendre adaptif, c'est-à-dire adaptatif, c'est-à-dire le long de la trajectoire, le faire changer. D'accord ? Tout ça, c'est un zoo de résultats. Je vais rentrer. Pour l'instant, je vais faire une situation relativement simple. Je vais étudier le online stochastic gradient descent. Donc on regarde cette chose-là. Alors regardons cette chose-là un petit peu. Elle peut bien sûr s'écrire maintenant. Je peux évidemment l'écrire autrement. Je peux l'écrire comme... Donc ce xt, c'est xt moins 1, moins delta, fois le gradient de phi, plus le gradient de ce que j'ai appelé h. D'accord ? Donc on voit, et rappelez-vous, cette partie-là, qui était simplement l moins phi, est centrée. Donc ici, maintenant, quand vous regardez cette équation-là, vous voyez que vous avez une équation, comme une discrétisation d'équations différentielles ordinaires, où vous avez ici le flot du gradient de phi, et ici des termes centrés aléatoires. Vous pouvez espérer que ces termes centrés aléatoires disparaissent. D'accord ? La loi des grands nombres vous les enlève. OK ? Donc ça, ce sont les théorèmes typiques, donc je ne vais pas vous les citer en détail, mais en dimension finie, donc si n et d sont en dimension fixée, il y a une littérature considérable pour montrer que, avec le bon choix de step size, les bonnes hypothèses de smoothness, de bornes sur les dérivés, ce flow, donc xt, bien entendu, maintenant, vous prenez cette trajectoire XT qui est en dimension fixée. Ça ne va pas être notre contexte, mais vous pouvez l'interpoler linéairement. Je l'ai défini à des instants discrets. Vous définissez un chemin. Et ce chemin va converger, devrait converger vers le flot du gradient de phi. Okay. Donc ça, c'est un méta-théorème qui correspond à une loi des grands nombres, si vous voulez. D'accord ? Loi des grands nombres vous dit, ici, j'ai des termes indépendants, centrés. Si j'ai le droit de m'en débarrasser, ça va converger vers le flot du gradient. Parce que ça serait le flot du gradient, que vous avez bien choisi le delta. D'accord ? Ça, c'est dérivé de x. Le flot du gradient, c'est donc dx sur dt. Égal. Bien sûr, il faut. Égal moins gradient phi de x. Okay. Et ensuite, comme vous cherchez à trouver le minimum. Rappelez-vous, vous cherchez à trouver le minimum de phi. Bien sûr, vous n'avez pas fini, parce qu'il est parfaitement possible que ce flot du gradient n'aille pas vraiment chercher les minimums de phi, ça, c'est une autre question maintenant. OK, donc ce théorème. Ça, c'est un méta-théorème, disons, qui est à peu près vrai. Il y a ensuite des théorèmes, bien naturellement, donc c'est des théorèmes très anciens, il y a bien naturellement après des théorèmes de type, ça c'est un théorème de type loi des grands nombres, vous avez bien sûr un théorème de type théorème central limite, où vous allez dire que le flot de XT va toujours en dimension fixée, va converger vers une équation différentielle stochastique, maintenant, au lieu d'être ordinaire, vous aurez comme terme d'équation différentielle ordinaire, comme drift de votre équation différentielle stochastique, vous aurez le flot du gradient de phi, et puis un terme de diffusion, d'accord, brownien. C'est naturel. De la même façon, vous avez ici une suite de variables ID, vous avez la loi des grands nombres, vous avez le théorème central limite. D'accord. Et en général, quand vous écrivez ces équations d'approximation gaussienne, la partie diffusive est tout à fait raisonnable, elle est elliptique, elle est non dégénérée, et donc quelque chose de sympathique, encore sous les bonnes conditions. Et bien entendu, vous pouvez aller plus loin, il y a aussi les théorèmes de grande déviation. Aussi parce que de la même façon, vous avez une structure IID ici, donc vous appliquez les théorèmes de grande déviation pour les suites de variables IID, et vous pouvez même donc calculer la probabilité que ce flot s'éloigne du flot du gradient. Donc ça, c'est la situation relativement... Avec tout ça, vous pouvez travailler sérieusement. Donc, encore une fois, il y a eu un très bon cours de ce qui s'appelait à l'époque un DEA, qui s'appellerait aujourd'hui un Master 2, fait par Michel Benahim dans les années 90. Si vous l'attrapez quelque part, vous apprendrez tout ça très vite. Maintenant, la question, c'est que... on veut faire tout ça, mais en dimension divergente. D'accord ? On veut comprendre. Alors, en dimension divergente, d'un seul coup, il va falloir être très prudent. Alors, il y a une grande quantité de théorèmes comme ça dans la littérature. Il va falloir être très prudent parce qu'il va falloir faire des hypothèses de smoothness, des hypothèses de bornes sur les dérivées de cette fonction et de celle-ci, en faisant attention à la façon dont elles dépendent de la dimension. Mais aussi, il va falloir choisir le step size de façon compatible avec ces bornes. Ça, c'est une des choses importantes. Okay ? Mais encore une fois, on ne peut pas vraiment le faire comme ça, le théorème, parce que notre x va être dans une dimension divergente. D'accord ? Donc je ne sais pas bien ce que veut dire ce système converge vers une équation différentielle, sauf si j'injectais tout ça dans un espace de dimension infinie. D'accord ? Donc ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a fait quand le rang était 1, dans les exemples simples que j'ai déjà traités, c'est qu'on veut regarder la convergence. Donc maintenant, le problème qu'on veut se poser, c'est n et d divergent. Donc n. Alors maintenant, je vais mettre un indice grand n pour dire que tout diverge quand ce petit n tend vers l'infini. Tous ceux-là vont être grands. D'accord ? Notre delta va dépendre de n aussi. Et on aura le droit de le choisir comme ça. Et on veut suivre. On veut prendre maintenant une fonction u qui va aller de r puissance grand n dans un r puissance k. D'accord ? K va être un nombre fixé, 18. D'accord ? Dans les exemples d'avant, c'était 1. Et on veut que u, alors ce u va le droit de dépendre de n, et on veut maintenant que ce u, cette projection de x, converge vers quelque chose. D'accord ? Donc bien sûr, il faut faire des hypothèses sur u. Comme je l'ai dit, quand vous prenez une projection d'un système dynamique, il n'y a pas beaucoup de chances que la projection converge vers quelque chose d'autonome. D'accord ? Vous prenez la solution d'une équation différentielle ordinaire. Donc il faut des hypothèses pour ça, pour que ça satisfasse à la limite une équation. D'accord ? Donc on va faire ces hypothèses. Et il y a deux types d'hypothèses. Il y en a une... qui va nous dire que U, donc premier type d'hypothèse, c'est que UN est une bonne projection. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la limite, donc on l'a appelé ça, dans le papier, on a appelé ça a summary statistics. C'est-à-dire que ça résume la situation. D'accord ? Comme dans notre exemple de TensorPCA, la latitude était une summary statistique. Donc ça veut dire simplement, c'est facile de voir quelles sont les conditions, mais ça va nous dire qu'il y a une chance que la limite de un de x satisfasse une équation autonome. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Mettons-nous dans la situation où effectivement ça convergerait vers le flot, la situation standard, où ça converge vers le flot gradient. Si vous regardez ce que fait u de xt, si x converge vers l'équation. Supposez que x satisfasse le flot gradient, u de xt, vous allez écrire dt, vous appliquez chain rule, enfin la loi de dérivation des fonctions composées, et vous obtenez le gradient de phi, avec un moins. Donc ça c'est peut-être, fois le gradient de u, dt. Et ça, Si vous voulez que ça soit une fonction de xt, il faut supposer que le grade phi fois grade u, c'est une fonction de u. D'accord ? Si vous voulez que tout ça soit une fonction de u, il faut supposer que ça, c'est essentiellement une fonction de u. D'accord ? Donc on va supposer ça en l'écrivant. Donc la première hypothèse naturelle, c'est de dire que, après je vais bien sûr le rendre un peu quantitatif, c'est de dire que le gradient de phi, gradient de u, moins une certaine fonction f de u, tend vers 0. Alors je ne dis pas précisément ce que veut dire tend vers 0 ici, mais donc ici tout dépend de n. Donc on veut qu'il existe une fonction f telle que ça soit vrai. Ouais.
La dépendance,
elle est fonctionnelle. Non. Pas du tout. C'est au contraire ponctuel. Si tu veux que ça soit une équation différentielle ordinaire à la fin, tu veux que ce soit ponctuel. D'accord ? Donc a priori, ça dépend du gradient, mais tu dis tout ça doit converger vers un f de u. D'accord ? Si tu as effectivement la convergence vers le flot du gradient, ça suffit pour te dire que si tu avais ça, tu peux imaginer que u, à la limite, satisfera une équation du type. D'accord ? Puisque j'ai juste réécrit l'équation du gradient comme ça. OK ? Bon, mais l'intérêt de ce que je vais raconter, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire. Alors, ensuite, donc je vais vous donner les autres hypothèses pour que ce soit une bonne gradient statistique. On va supposer aussi maintenant que le delta, notre step size, multiplié par un certain opérateur L, que je vais décrire, de un, moins une autre fonction g de un, tend vers 0. D'accord ? Donc on suppose qu'il existe une fonction f, une fonction g, telle que ça soit vrai, je vais vous dire qui est cet opérateur du second ordre. Et en fait, donc ça c'est la condition 1, condition 2. Et la condition 3, c'est que je vais expliquer, n'ayez pas peur, tout ça va prendre du sens. Donc on a besoin de ces trois conditions. Ici, ce sigma est une matrice positive. Et qu'est-ce que sont ces les objets que j'ai introduits ici ? Donc je vais les écrire. Donc le J, il faut pas que je me trompe. Donc qu'est-ce que c'est que le L qui est là ? Pour ça, j'ai besoin de définir le V, disons. V, c'est la matrice de covariance H. D'accord ? Vous voyez, H, qui était le H, c'était le risque centré, recentré. Maintenant, je regarde, ça va nous donner des variables, des lois de probabilité centrées, et on veut regarder la matrice de covariance associée. Donc ce V, c'est l'espérance, donc la matrice de covariance du gradient de H. Je devrais mettre Y ici. OK, donc ce V, c'est la matrice de covariance au point X du gradient de H. OK ? Et le L, que j'ai ici, donc le Ln, c'est simplement l'opérateur défini par cette chose-là. OK ? C'est ce L-là. Ensuite, il me reste à dire qui est J et qui est V. Alors J, V j'ai déjà dit, V c'est ça, et J c'est juste le gradient, le jacobien de U si vous voulez. Je devrais mettre des N partout. D'accord ? Donc, voilà des conditions. Je dis j'ai besoin que ça converge vers quelque chose quand on l'a normalisé par delta N. Pareil pour ce Ln, ça c'est converge vers quelque chose. Donc il existe. Alors maintenant je ne vous ai pas dit ce que veut dire converge vers zéro. Alors je vais vous le dire avec des mots. On suppose qu'on a une suite de compacts qui remplissent l'espace Rn, et on veut que ça converge uniformément sur ces compacts. D'accord ? Mais alors, voilà. Donc c'est ça la. Enfin, sur l'image réciproque de ces compacts, plutôt par Un. Donc voilà la notion de summary statistics, de résumé. Pour l'instant, il n'y en a pas. Enfin, c'est quelque chose. Ça vient après, justement. Alors, ou sur la taille de delta n. Alors maintenant, ça, le théorème est le suivant. Oui. Alors justement, ça, je vais passer du temps à le décrire, mais pour l'instant, je vais le décrire de façon elliptique, disons. Donc, le théorème, c'est... Ah, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas écrit théorème avec un E à la fin. Donc, théorème, si, dans la situation où on est, si UN est une bonne projection, une summary statistics, donc c'est-à-dire c'est satisfait ces conditions-là, sous les bonnes... Donc, première chose, et si UN est ce qu'on va appeler delta N localisable, donc ça va demander une autre définition. Pour l'instant, prenez-le comme juste la réponse à la question de Pierre-Louis, c'est-à-dire une histoire de taille, du step size et des dérivés de tout le monde. D'accord ? Alors, UN de XT, quand vous suivez, donc rappelez-vous où on est, ici on a XT, ce flot du gradient stochastique en dimension divergente. Ce flot du gradient stochastique converge, interpolé pour en faire un chemin continu, on l'avait en temps discret. Et quand je dis converge ici, ça veut dire converge vraiment, en temps, la loi du chemin de ces choses-là, converge vers un U de T qui est la solution de l'équation différentielle stochastique suivante. Alors ça c'est très important, moins F de UT plus G de U dT plus racine de sigma de UT dWT. D'accord ? Donc rappelez-vous, U est en dimension K. K c'est 18, c'est fixé. Donc W c'est un mouvement brownien en dimension 18, en dimension K. Bien sûr, pour faire tout ça, j'ai aussi besoin d'une autre hypothèse. J'ai besoin de supposer que la loi initiale, une hypothèse sur l'initialisation, j'avais appelé mu la loi initiale de X. Il faut que je prenne maintenant la loi initiale de X. J'en prends son image par U, ça doit converger vers quelque chose. D'accord ? Et à ce moment-là, mon U0 ici sera distribué comme nu. Donc j'ai besoin de l'hypothèse que la loi initiale projetée par UN converge. J'ai besoin que UN soit une bonne summary statistics comme ça, et cette hypothèse-là que je n'ai pas encore introduite. Alors, on va la discuter, c'est évidemment le sujet. Mais l'important, c'est que vous voyez, a priori, cette équation n'est pas celle à laquelle on s'attend. Dans un contexte de dimension finie, donc ça, c'est ce qu'on va appeler ce qui vient du gradient, du flow gradient. C'est ce qu'on aurait eu dans la situation de dimension finie. Ça, c'est ce qu'on va appeler le terme de correction. Et ça, bien sûr, c'est un terme de correction stochastique. OK ? Donc, à partir de la situation de dimension finie, vous vous attendez à ce que G soit 0 et sigma soit 0. D'accord ? Mais je vous dis, non, il peut y avoir des termes de correction, G et sigma. Et je vais décrire des exemples, bien sûr, je vais vous raconter ce que sont tous ces F, G, sigma, quand est-ce que c'est localisable, enfin, toutes ces questions-là. Mais enfin, avant de rentrer dans des exemples, vous voyez, on va distinguer deux régimes. Il y a des régimes, bien sûr, où ce G et ce sigma sont nuls. C'est ce que j'appellerais le régime classique, c'est le même qu'en dimension finie. Il y a des régimes, beaucoup de régimes, qu'on appelle balistiques, où le sigma est nul, mais où vous avez ce terme de correction qui joue un rôle très important. Et puis vous avez des systèmes encore plus compliqués où vous avez non seulement la correction balistique, mais vous avez aussi la correction de diffusion. Dans ces systèmes-là, dans tous les exemples qu'on a trouvés, le terme de correction ici n'est pas du tout ce qu'on attend à partir de la perturbation de la dimension finie, du théorème central limite de dimension finie. Ce terme de correction, il est en général dégénéré. Donc cette diffusion-là me fait retrouver des très vieilles amours, c'est-à-dire la diffusion hypoelliptique. D'accord ? Des histoires anciennes, parce qu'on a étudié les diffusions hypoelliptiques massivement en probabilité dans les années 80. Donc, on va essayer de décrire tout ça. Mais avant de décrire tout ça, donc vous voyez que ça va être plus précis. Alors la question, c'est à quoi servent ces termes en plus ? Alors avant de montrer des exemples, repensons sans même écrire quoi que ce soit au TensorPCA. D'accord ? TensorPCA, ce qu'on a vu sortir, c'est ce flow gradient. D'accord ? Le flow de grand phi, d'accord ? Qui était juste moins lambda. Phi était juste lambda, qui était le signal-to-noise ratio, m à la puissance p. Donc ce terme gradient, c'était un moins lambda p, m à la puissance p moins 1. Mon u, c'était m. D'accord ? Donc le flow donné par f, c'était ce flow, simplement, du terme donné par la latitude. Et celui dont j'ai parlé au début de cet exposé, en dimension 1. Mais quelle était la loi initiale ? Ça, il faut regarder. On partait avec une loi uniforme sur la sphère. Quand on l'a projetée sur la latitude, on trouvait ici la loi qui était essentiellement la masse de Dirac en zéro. D'accord ? Parce que, encore une fois, quand vous prenez un point uniformement sur la sphère, vous regardez sa latitude, c'est zéro. Enfin, c'est très proche de zéro, elle converge vers zéro. Donc, quand vous preniez ce système différentiel qu'on trouvait, c'est ça qui faisait toute la difficulté, c'est quand on prenait ce système-là, ben, on avait un système qui ne bougeait pas de zéro. D'accord ? Et ensuite, il fallait travailler pour voir qu'il commence à bouger de zéro. Donc, vous pouvez voir que les correcteurs, quand ils existent, vont vous donner une information importante. Ces correcteurs vont vous expliquer comment vous échapper. Alors, en général, ça ne sera pas en général d'un point critique. Les situations, en général, sont plus compliquées. Vous avez des variétés critiques, des choses plus compliquées. Mais comment vous échapper de ces variétés-là? Si vous avez la mauvaise malchance de partir de là. OK, alors il faut que j'explique ce que veut dire delta n localisable. Bien sûr, bien entendu. La vraie question ici, c'est... Voilà. Oui, mais la vraie question ici, alors justement, ça élargit... La vraie question, c'est... Peut-être avant de vous dire ce que veut dire delta n localisable, la vraie question, c'est, OK, tout ça, c'est bien gentil, mais est-ce que ça existe, une summary statistique ? Parce que je demande précisément... Regardez, vous prenez un processus de Markov, vous le projetez, c'est pas Markov. D'accord ? Donc, je suis en train de dire, j'isole les hypothèses qui fait que c'est Markov. Ce qui veut dire ici, par exemple, que je n'ai que U et pas gradient U. Parce que si j'avais gradient U, il faudrait considérer à la fois U et gradient U pour avoir quelque chose de Markov. Mais c'est quand même dedans, parce que je pourrais élargir mon UN si je n'ai pas dit qui était UN au début. Bon. Mais la vraie question, c'est comment vous trouvez des bonnes projections ? D'accord ? Ça, c'est une méta-question. D'accord ? Ma question-là, je dis, quelqu'un vous dit voilà une bonne projection, prenez-la et vous travaillez avec. Alors, cette méta-question est fondamentale. Comment trouver... Alors, OK, donc, laissez-moi 5 minutes pour que je puisse répondre à ça. Gardez ce théorème en tête et je vais... Bon, ces notations, je suis obligé de les effacer pour avoir un peu de place. La vraie question, c'est... La méta-question qui est fondamentale pour appliquer ce théorème. C'est-à-dire que ce n'est pas une question directement là, c'est... Comment trouver... des bonnes projections. Comment même imaginer que ça puisse exister ? Quand vous vous donnez une bonne projection, vous vous donnez en particulier le cas, d'accord ? C'est-à-dire la dimension. Dans les exemples qu'on a donnés, c'était 1. Mais quand je vous donne un exemple plus compliqué, je vous ai dit, je vais vous montrer un exemple qui a l'air simple, où la dimension c'est 22. Donc ça ne saute pas aux yeux. Alors, comment faire ça ? Il y a une situation simple. Il y a une situation très simple qui consiste à... Et c'est ça, on applique pour l'instant dans cette situation-là, qui généralise ce qu'on a vu dans le rang 1. Imaginez que vous soyez dans une situation où votre fonction de coût soit en fait une fonction d'une fonction u de x. D'accord ? Qui, elle, est de dimension k, où u va de rn dans rk. D'accord ? Donc supposez que votre vraie fonction de coût ne dépende en fait que de 18 paramètres. Alors c'est naturel de se dire on va essayer de suivre ces 18 paramètres. D'accord ? Et dans cette situation-là, il y a des régimes de delta n pour lesquels toutes les hypothèses vont être vraies. D'accord ? Donc on va... Enfin, c'est pas toujours vrai, bien sûr, mais c'est naturel de chercher dans cette direction-là. Les situations Donc ça, c'est les situations, tous les problèmes que vous voyez, où on va vous donner un réseau à tant de couches, et c'est des situations où on peut calculer, où on peut espérer. Donc ça, ça veut dire que je suppose que ma fonction de coût, c'est en fait une fonction d'un signal qui est de rang 18. Et vous pouvez parfaitement imaginer que... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de situations qui sont comme ça, en fait. Mais, et peut-être, ça voudrait, c'est possible d'étendre ce qu'on fait là, à des situations où le cas peut éventuellement lui aussi diverger lentement. D'accord ? Oublions ça. Mais la vraie situation, c'est quand, la vraie question, c'est quand je vous donne un vrai problème de classification, par exemple, avec un paquet de données, vous ne savez pas quelle est la taille du signal. Vous ne savez pas si vous avez quelque chose comme ça. Okay ? Alors, comment faire ? Alors, bon, c'est normalement ce que je vais dire là, c'était censé être les mots de conclusion, mais c'est la faute de Pierre-Louis, je l'ai dit maintenant. Pardon ? Oui, c'est ça, t'as mon dos. En fait, la... Et je peux vous donner des exemples intéressants qui sont dans un travail magnifique récent, enfin dans les dernières années, de Donoho, Papien et Han. Il y a une série de papiers qui s'appelle Neural Collapse. Il y a une question de classification, il se passe des choses magnifiques que je ne vais pas décrire ici. En fait, on s'aperçoit de la chose suivante. Quand vous suivez, les gens l'ont fait. Donc, par exemple, Papien, qui à l'époque était il y a 4 ans, devait être encore en élève en thèse avec Donoho, a fait un algorithme de gradient pour des tâches de classification sérieuses, difficiles, pas a priori d'un signal 18, de dimension 18, a suivi, donc, du point de vue de l'analyse numérique, c'est du solide, parce qu'il a suivi donc, le flot de gradient stochastique en regardant le hessien tout du long. Bien entendu, ça serait du gradient stochastique avec une méthode de deuxième ordre. On sait bien en dimension finie que... Excusez-moi, là je diverge un peu, mais tant pis, je réponds à la question. On sait bien qu'en dimension finie, on peut aussi s'amuser à choisir le step size le long de la trajectoire en le faisant varier en fonction de ce qu'on sait sur le hessien de la fonction de perte. Donc lui, il a suivi le spectre de ce hessien et voilà ce qu'il observe. Donc ça, il y a bien sûr, donc, dans ces algorithmes en très grande dimension, on suit le gradient stochastique, on voit une première phase qui est une phase de search, où ça veut dire que la fonction de coût, vous voulez la minimiser, elle est élevée. Donc en fait, ça correspond, dans mon histoire de TensorPC, au fait que vous vous promenez autour de l'équateur, vous avez un résultat qui n'est pas meilleur que random. Et à un moment, vous avez la phase de descente. Vous sortez de l'équateur, vous approchez de la région où il y a du signal. Alors, et après, vous avez la phase en bas. Alors normalement, souvent, les gens disent « bon, ben, c'est fini après ». Mais pas du tout. Dans les situations qu'ils regardent, c'est des situations en fait très over-parameterized, avec beaucoup, beaucoup de paramètres. Et on voit que la fonction de coût arrive pratiquement à zéro. Elle est positive dans son cas. Et on voit qu'elle pratiquement, à la fin de la phase de descente, elle est pratiquement à zéro. Donc vous pouvez vous dire, bah, j'ai fini ma minimisation. Si vous prenez le x que vous obtenez à ce moment-là, la valeur du paramètre, et que vous l'utilisez, le résultat est nul. D'accord ? Votre x n'est pas du tout bon, il n'est pas du tout près de des configurations optimales que vous cherchez. Donc ce qu'il faut faire, c'est continuer à faire tourner l'algorithme malgré le fait que la fonction de coût est près de zéro. Et dans cette dernière phase, on voit des choses extraordinaires se passer. Il y a une phase de cristallisation, une convergence vers un ETF, Equilateral Tight Frame, toutes sortes de choses jolies, mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est que si vous suivez donc tout ça, c'est numérique, ce que je vous raconte là. Donc c'est la suite de ces théorèmes d'ici un certain nombre d'années quand on aura réussi à les... Mais si vous suivez le hessien de la fonction de coût le long de votre trajectoire, vous voyez une transition BBP. C'est bien naturel. Vous voyez que votre hessien va avoir les valeurs propres, vont avoir en fait trois morceaux. Un gros bulk, dont on n'a à peu près rien à faire. En particulier, comme c'est très overparamétré, il y a beaucoup de valeurs propres proches de zéro, des directions très plates. Ensuite, un mini-bulk, qui est quand même un nombre divergent de modes de valeurs propres, mais beaucoup moins que ce gros bulk. Je vous le décris pour vous en fonction de les valeurs propres. Et ensuite, des outliers, des valeurs propres qui sortent, c'est la transition BBP, et qui sortent de plus en plus. D'accord ? Et quand elles sont bien sorties, la structure dans l'espace propre associé à ces valeurs propres sorties, outliers, converge vers, fait des choses intéressantes. C'est là que la structure est. D'accord ? Donc vous voyez bien ce qu'il faut faire. Il faut, dans cette situation-là, dans les premières phases, vous n'appliquez pas ces théorèmes. Une fois que vous avez commencé à descendre, quand vous êtes dans cette phase-là, bien entendu, la bonne statistique devrait être la projection sur l'espace propre des valeurs propres, des outliers BBP. D'accord ? Et si vous regardez... Alors, bien entendu, votre fonction ne sera pas exactement une fonction de ça, parce qu'il y a quand même tout le reste. Donc maintenant, ça va être une approximation. Le résultat va être un peu plus compliqué que ce que je raconte là, mais ça sera, à mon avis, dans la même nature. Ce que je viens de vous dire, c'est de la prophétie. Je n'ai pas de théorème, bien sûr. D'accord ? Mais quand vous suivez ce qui se passe, y compris dans le... Il y a un papier qui est paru il y a 2 semaines maintenant. Il y a un objet qui s'appelle le Central Path dans ces histoires-là et qui correspond à ce que je raconte, en fait. D'accord ? Donc c'est... Effectivement, cette méta-question est la vraie question ensuite. C'est quand est-ce que vous pouvez sortir les bonnes statistiques ? Et en fait, il semble bien que le système les sorte lui-même. Ces bonnes statistiques seront les outliers, les valeurs propres très détachées du Hessien dans la région finale. D'accord ? C'est net. Voilà. De mode qu'il faut garder, voilà, de variables. Voilà. Et donc, ce que dit la transition BBP, dont je suis en train de... lui, il calcule numériquement, après, mais avec des choses de taille colossale. Et il s'agit de... Ces gens-là sont des statisticiens, matheux, enfin, c'est pas des... Ils sont pas chez Facebook en train de... Donc c'est vraiment remarquable. Et c'est du très gros calcul, c'est remarquable, c'est pour ça que je dis que c'est remarquable. Et l'autre chose qui est vraiment remarquable, c'est que comme ce sont des mathématiciens de Stanford et d'ailleurs, tout est extrêmement accessible, il n'y a rien de caché, on peut voir ce qu'ils font. Alors, pardon ? Mais donc en mots, ce que je viens de raconter, c'est que cette transition BP, ça veut dire dans la phase finale, dans une dernière phase de ce, donc celle qu'ils appellent le neural collapse, de la trajectoire de SGD, vous avez en fait des variables qui sont beaucoup plus explicatives que d'autres. Ces valeurs propres grandes, ça veut dire que le Hessien est très grand dans ces directions-là. Donc la courbure, donc vous avez des variables plus explicatives en quelque sorte que les autres qui ont tendance à être trop plates. D'accord ? Donc vous faites la différence entre les variables plates, vous dites mon système ne dépend pas tellement de celles-là, je les jette et je garde celles qui sont... Donc, à mon avis, ce que je viens de vous dire, là, c'est, encore une fois, c'est de l'élucubration pour l'instant. Mais je suis sûr que ça peut être rendu correct si on a du courage et des forces. Alors, maintenant, je ne vous ai toujours pas dit... Donc, les exemples que je vais vous traiter seront des exemples comme ça. D'accord ? Où on sait a priori que la fonction de coût est une fonction de quelque chose de dimension finie, et on peut calculer. Alors, maintenant, je ne vous ai toujours pas dit ce que voulait dire localisable. Alors, je vais l'écrire ici. Alors, c'est très technique, mais bon. Donc, on va dire que c'est delta n, mon système est delta n localisable. Si on a les hypothèses suivantes, donc c'est ce qui, dans la littérature, sont appelées des hypothèses de smoothness. Mais dans ces hypothèses de smoothness dans la littérature, les gens ne suivent pas avec assez de soin, en général, pas tout le monde, bien sûr, ne suivent pas assez de soin la dépendance de toutes ces estimées a priori sur les dérivés des fonctions qui sont ici en fonction de la dimension et en fonction du step size. Et si vous ne les suivez pas, vous pouvez dire que la chose se passe en temps infini, mais ce temps fini, c'est exponentiel d'exponentiel n, la dimension, et donc ça ne veut rien dire. D'accord ? Donc il faut être un peu précis, c'est ce qu'on veut faire ici. Donc ici, on veut que notre delta n soit plus petit que quelque chose, soit plus petit qu'une constante. Bon. Fois le plus grand des termes suivants, le max de... Et là, on a suivi les constantes avec précision. Bien entendu, il ne faut pas retenir tout ça. Mais... Et ici, le J, c'est 2 ou 3. D'accord ? Donc, ce n'est pas important de suivre tout ça de près, mais ça vous dit, vous regardez les... Il y a deux façons de lire. Vous voulez soit que le pas soit petit, soit vous voulez dire que les bornes sur les dérivés soit contrôlé par le pas, ou l'inverse du pas. Donc ici, vous voulez que le pas soit plus petit que ce qui contrôle vos dérivées deuxième et troisième à la puissance, à une puissance négative. D'accord ? Si j égale 2, ça fait 2 sur 3 moins 2, c'est-à-dire 2. Et si j égale 3, égale 3. Ah non, ça ne peut pas être ça. Il doit y avoir un... Bon. Peut-être que c'est que pour 2, en fait. Je me suis trompé là. Et ici, vous avez cette troisième puissance du gradient à la puissance moins 2 tiers, etc. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous avez une quantité ici. Vous supposez que votre U, votre H, etc. sont régulières. Vous avez des bornes sur les dérivées, mais ces bornes sont contrôlées par le step size. D'accord ? Ou le step size est contrôlé par ces bornes. Alors, vous pouvez vous dire, mais c'est bizarre. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ces deux termes-là ? Pourquoi des choses ? Pourquoi ces puissances-là ? Alors, imaginez que vous êtes dans la situation... Donc, H, vous vous souvenez, c'était la fluctuation, du coup. C'était phi moins sa moyenne. C'était, pardon, L moins sa moyenne, phi. Si vous regardez comment se scale un vecteur aléatoire... Imaginez que ça, ce soit complètement un vecteur aléatoire dans Rn. D'accord ? Eh bien, en fait... ou sur la sphère, si vous préférez. Ce scaling-là, c'est celui qui correspond au step size standard quand vous prenez delta n égale constante sur la dimension. D'accord ? Donc ça, on peut les comprendre, ces scalings-là. En tout cas, pour ça, c'est le théorème, c'est ce qu'il vous faut. Alors maintenant, regardons une chose fondamentale. Imaginez que vous ayez une bonne summary statistique et qu'il soit delta n localisable. Et donc vous pouvez appliquer le théorème. Je dis que si maintenant vous prenez un delta prime qui est petit o de delta n, donc si vous prenez un step size plus petit, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, ça sera toujours une bonne projection, et ça, vous pourrez toujours appliquer le théorème, ça sera toujours localisable, pour une raison évidente. Si delta prime est plus petit que delta n, cette hypothèse va être vraie. D'accord ? Mais regardez ce qui se passe ici. Si vous prenez un delta prime plus petit que delta n, petit o de delta n, ça vous fait que votre g va devenir 0. Et votre sigma va devenir 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que vous avez un régime de step size qui est tel que... et qui est bien entendu un intervalle. D'accord ? Puisque si vous avez... si ça marche pour un delta, ça marche pour un delta prime plus petit. D'accord ? Mais vous n'avez une équation limite. Donc si ça marche pour un certain delta, pour les delta primes plus petits, vous obtenez l'équation simple. Celle qui vient de la dimension finie, celle où vous n'avez pas de correcteur. Et donc, vous n'avez cette équation avec les correcteurs, au mieux, que pour un régime, qui est le plus grand step size. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le régime critique. Donc, avec tout ça, quand vous pouvez appliquer ce théorème, ça vous dit que vous avez un régime critique où vous avez peut-être des correcteurs, et pour tous les régimes sous-critiques, où le step size est plus petit, vous obtenez le même théorème qu'en dimension finie. D'accord ? Et maintenant, je vais bien sûr me concentrer sur ces régimes critiques. Alors, pourquoi ils sont intéressants ? Et j'ai illustré par l'exemple que vous connaissez, c'est-à-dire TensorPCA, et après par des exemples plus compliqués. Donc, imaginez maintenant... qu'on ait un résultat comme ça, et que je prends donc le delta, qui est le plus grand step size pour lequel ces choses-là soient vraies. Alors, pour un delta plus petit, je vais avoir la convergence vers le flot qui est donné que par le terme par f, c'est-à-dire la projection du flot du gradient. Donc imaginez que vous soyez, donc cette projection du flot du gradient en dimension 18... Moi, je ne peux pas dessiner la dimension 18, donc je vais dessiner une dimension 2. D'accord ? Donc k égale 2 dans mon dessin. Imaginez que ce flot du gradient soit compliqué. L'exemple qu'on a traité, un TensorPCA, c'était le flot du gradient en dimension 1. Imaginez que ce soit en dimension 2, les choses peuvent devenir déjà beaucoup plus riches. Donc imaginez que vous ayez une variété stable ici, une autre ici, des points stables ailleurs. D'accord ? Vous pouvez avoir un paysage maintenant, on est dans le monde des systèmes dynamiques, toutes sortes de choses ne sont pas terribles parce qu'ils sont projetés de gradient, donc ce n'est pas la fin du monde. Mais vous pouvez vous dire maintenant, alors bien sûr vous prenez votre loi initiale peut vous faire partir, par exemple ça c'est le point vers lequel vous voulez aller, mais votre loi initiale peut vous faire partir très près de cette variété-là. Alors là, vous êtes embêté. C'est la situation qu'on avait dans TensorPCA, où cette variété, c'était juste l'équateur, si vous voulez, m égale 0. Alors ce que vous allez faire, si c'est ça, vous zoomez. D'accord ? Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre... Vous prenez un, disons que c'est, ici, j'ai un point critique que je vais appeler x star, u star, pardon, parce que c'est dans l'espace des u. D'accord ? Si j'ai un point critique, je vais prendre mon un moins u star, et puis je vais zoomer en multipliant par mon delta n à une puissance, disons, moins alpha. D'accord ? Je peux zoomer autour de ce point-là. Et si je fais ça, je peux espérer que ça, ça converge. Et en fait, si vous regardez cette situation, vous avez juste à appliquer le même théorème. Ça, c'est de nouveau une fonction de votre flot de gradient stochastique, une autre fonction. Vous appliquez le même théorème. Bien entendu, il va falloir choisir, par exemple, ce alpha proprement. Et il est parfaitement possible. Donc, voilà ce qui va se passer. Dans un premier régime, vous allez avoir le flot de gradient comme en dimension finie. Donc, si vous êtes tout près d'ici, ben, vous allez vous dire « j'arrive pas à en sortir », comme dans notre affaire de TensorPCA, mais si vous zoomez proprement, vous allez avoir des correcteurs balistiques et diffusifs qui vont vous faire sortir, qui vont vous dire comment vous sortez de ça. D'accord ? Parce que quand vous rajoutez un système stochastique, dont ça c'est un point critique, un point stable, par exemple, si vous rajoutez, comme notre équateur dans TensorPCA, si vous rajoutez un terme G ou un terme de bruit, il va vous expliquer comment vous sortez. D'accord ? Si vous faites ça, vous retrouvez tous les résultats que je vous ai racontés sur TensorPCA. D'accord ? Et je vais vous raconter ça. OK ? Mais d'autres exemples de ce genre-là. Donc il faut bien voir que le step size, la projection, sont à votre choix. Là, par exemple, quand je choisis ce zoom, j'ai changé de projection. Vous appelez ça VN, si vous voulez, maintenant. Vous appliquez le théorème à ce VN-là. D'accord ? Donc c'est à votre choix. Et pour le même système, suivant la projection que vous choisissez, vous allez voir des termes avec un correcteur balistique ou diffusif, ou pas de correcteur du tout. D'accord ? Donc ça vous donne beaucoup, beaucoup de moyens d'attraper les endroits difficiles. Alors je vais vous donner un exemple. On va reprendre notre exemple favori, si vous voulez bien, pour voir comment ce théorème raconte quelque chose qu'on comprend déjà un peu, et d'autres choses. Mais il faut bien voir que le théorème tel que je l'ai énoncé ici ne suppose pas que la fonction de coût est une fonction d'un nombre fini de variables. Hein. C'était abstrait. Alors, OK, donc reprenons l'exemple de TensorPCA. Ou Tensor Matrix et TensorPCA. Alors, je vais reprendre donc le modèle qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, celui qui est relié au ver de spin. C'est pour ça que j'avais commencé par les vers de spin. Mais comme je veux le mettre dans le même cadre que ce qui est ici, comme je vous l'ai dit, je vais en donner une variante un peu différente qui se passe dans Rn et pas sur la sphère. D'accord ? Donc on a la même situation. Nos données, c'est un vecteur V à la puissance P. Un signal to noise, un rapport signal-bruit, et puis des bruits. Donc ici, rappelez-vous, ces WI sont des P tenseurs. On est en dimension N, d'accord ? Qui sont IID, et puis gaussiens. D'accord ? Donc j'observe, la situation était simple, il y a un vecteur que je ne connais pas. Donc ça c'est un tenseur de rang 1, que je ne connais pas. Et je l'observe de façon bruitée. D'accord ? Donc on a déjà discuté tout ce qui se passait dans cette affaire-là. Et donc on fait l'estimateur du maximum de vraisemblance. Et quand vous faites ça, après vous prenez le log du maximum de vraisemblance, le log de la vraisemblance, c'est un signe moins. Vous obtenez que la fonction que j'avais appelée L tout à l'heure, c'est juste la norme L2 moins X, pardon. Voilà. Et donc, rappelez-vous, quand on développait ça, c'est là qu'on trouvait mon verre de spin plus quelque chose de rang 1. Alors ici, on va choisir, quelle est la projection qu'on va choisir, notre UN. Ça va être, donc quand on était sur la sphère, quand je mettais tout sur la sphère, bien sûr, encore une fois, quelle est la différence? Et rappelez-vous, quand je vous ai parlé de l'algorithme de gradient stochastique sur la sphère, je faisais l'algorithme que je vous dis racontais, mais je prenais le gradient sur la sphère d'un certain point de vue, pas vraiment. Je faisais l'algorithme dans RN et je le reprojetais sur la sphère à chaque étape. D'accord? Comme je n'ai pas envie de faire ça, je vous le fais directement dans RN. Ça m'oblige à rajouter une variable. Donc maintenant, ma statistique, ma bonne projection, c'est celle-là. Donc M, c'est comme avant la latitude. Et R, maintenant, ce qu'on a appelé, c'est quelque chose qui sert de quantité pour fixer le rayon. Donc c'est X moins MV au carré. D'accord ? Donc rappelez-vous le dessin, quand on avait la sphère, donc c'est cette projection dans la direction. Donc c'est X2 moins M2, si j'ai supposé que V était unitaire, comme toujours. D'accord ? Donc ce R2, j'aurais pu choisir X2, parce qu'ici j'ai M, de toute façon. Donc mes deux variables, c'est la latitude et le rayon. Bien, alors je vous dis, croyez-moi, que ça, c'est une bonne summary statistic. Ça semble bien naturel, parce qu'encore une fois, la fonction de coût est clairement une fonction de ces deux variables. D'accord ? Donc ça, U est une bonne summary statistic, ça, on peut essayer d'appliquer le théorème. Alors je vous dis, si vous choisissez delta n égale grand taux de 1 sur n, la dimension, ici c'est grand n, d'accord ? Alors mon système est delta n localisable. Donc ça c'est OK pour appliquer le théorème. D'accord ? Mais maintenant, vous voyez deux choses. Vous voyez que si vous prenez votre delta n égale petit o de 1 sur n, on est dans un régime sous-critique, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire un régime qui est similaire à ce qui se passerait au théorème que vous obtiendriez. Rappelez-vous, le tout premier méta-théorème que je vous ai donné en dimension finie, vous l'appliqueriez ici, vous obtiendrez ce résultat. D'accord ? Alors, dans cette situation-là, vers quoi converge le... Ah oui, je ne vous ai pas écrit, peut-être je peux l'écrire ici. La fonction de... Ici, si vous calculez ce phi, avec population loss, c'est-à-dire l'espérance de ça, c'est un calcul trivial, parce que tout est... Vous obtenez que c'est moins... Avec mes notations ici, c'est moins 2 lambda m puissance p, je ne sais pas pourquoi j'ai un 2, mais bon, plus r2 plus m2 à la puissance p. Donc ça, c'est un calcul simple, gaussien. Donc voilà ma fonction... de perte, population loss, et comme vous voyez, elle est fonction de seulement deux variables. Donc on est bien dans la situation que j'avais tout à l'heure, c'est psi de U, où U, c'est cette fonction M et R2. D'accord ? Donc, je vais suivre ces deux variables-là, maintenant, le long du flot de SGD. Et je vous dis, tant que vous prenez le step size qui est comme bordé par une constante sur la dimension, ça marche. Alors, je vous donne le système limite. Quand c'est petit taux de 1 sur N, la limite va être... donc sous critique, et quand c'est delta n qui est de l'ordre, disons, d'une constante sur n, c'est le fameux régime critique. D'accord ? Alors je vous écris ce régime-là, c'est U1 point égale 2U1, donc lambda P, U1 P moins 2, moins P, R2P moins 2, et U2 point, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est juste pour voir les équations. C, c'est cette constante. Bon, vous avez un système, donc U2, ça vous donne essentiellement le rayon, et vous voyez que U2 satisfait une équation autonome. Il n'y a pas de U1 dans U2. Donc, c'est facile de voir que ce U2 va converger rapidement vers une valeur qui va vous donner le rayon de la sphère sur laquelle vous travaillez. Par contre, quand vous regardez celui-là maintenant, vous voyez qu'on retrouve quelque chose qui est très similaire à ce qu'on avait avant. Vous avez un U1 puissance P moins 1, vous avez un U1 ici. Ce terme-là est un terme en plus qui vient de cette fluctuation du rayon. Et donc on retrouve notre système, ici on retrouve notre système dynamique en dimension 1 qu'on avait déjà vu sur le cas de la sphère. Okay ? Alors maintenant, vous pouvez vous amuser, vous avez un système dynamique très simple en dimension 2, ça c'est vraiment un truc simple. Vous pouvez vous amuser à regarder les points fixes de ce système dynamique. Alors, c'est quoi les points fixes ? Il y a deux situations, il y a des situations différentes suivant que P égale 2 dans le cas des matrices ou P supérieur ou égal à 3 dans le cas des tenseurs. Je vais prendre juste la situation des tenseurs pour ne pas vous donner trop d'informations. Alors, vous avez un point, donc vous avez les points fixes de ce système, c'est facile à calculer. Vous avez un point instable à 0, 0. Celui-là n'a pas beaucoup d'intérêt. 0, 0, ça veut dire que votre latitude est 0, mais aussi que le rayon est 0. Donc celui-là, il ne compte pas beaucoup, on ne le voit pas, c'est difficile à voir. Et un point stable à 0, 1. Et celui-là, c'est celui qu'on connaît. C'est notre vieil ami, ce point stable. C'est la mauvaise nouvelle dont on parle depuis le début de ce cours. D'accord ? Qu'est-ce qui veut dire ce point stable ? C'est que vous avez votre rayon qui est 1. Donc le rayon se stabilise sur 1, vous allez normaliser les choses pour ça. Mais par contre, votre latitude est 0. Donc ça, c'est notre bon vieux système. Ça, c'est l'équateur. Ce point stable, c'est le fameux équateur. D'accord ? Donc si vous démarrez avec une loi uniforme, vous allez démarrer tout près de ce point stable et vous êtes mal. Mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a celui-là, il y en a un point stable là. Et ensuite, vous en avez d'autres. Quand lambda est plus grand qu'un certain, donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ces résultats avec Montanari, May et Nika, où on avait calculé la topologie, la complexité topologique du tensor PCA. Vous aviez, quand le signal bruit était plus grand qu'une constante, vous voyez apparaître, au début, vous avez tous vos points critiques à l'équateur, donc ici, et puis quand lambda est assez grand, vous voyez apparaître des points critiques dans une latitude proche du signal. C'est ce qui va se passer ici, quand lambda est plus grand que quelque chose. Vous trouvez des points critiques. Alors maintenant, je l'ai perdu. Malheur, qu'est-ce qui est devenu mon point critique ? Parce que je peux écrire un truc faux. Voilà. Vous avez deux points stables, deux instables. Deux points instables. À plus et moins un certain m plus de p et 1. Donc ça correspond à ce qu'on avait vu. D'accord ? Et puis deux stables. Non, cela vous n'avez pas vu. Deux stables, pardon. À plus et moins un m que j'appelle étoile de p et de 1. Alors ces points-là, c'est ceux qu'on avait vus. Rappelez-vous. C'est l'endroit où vous aviez les minimums. Quand vous aviez votre sphère, vous aviez des points critiques, un grand nombre de points critiques à l'équateur et peu de points critiques. Je vous ai parlé de la trivialisation topologique près de dans cette latitude-là. Ça, c'était les points stables. C'est ceux que vous voulez aller chercher. Quand vous démarrez au hasard, vous démarrez ici, vous voulez aboutir là. Ceux-là, dans ce contexte-là, sont relativement nouveaux. Ça vous indique un truc. Alors, ce M+, est plus petit que le M étoile. Ça vous indique quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est possible que même avec un warm start, même si vous démarrez dans l'hémisphère, et si vous ne démarrez pas avec suffisamment de signal, que vous vous retrouviez dans l'un de ces points instables. Il y a une possibilité d'être bloqué, y compris avec un départ bien informé. D'accord ? Quand vous faites tendre le signal, bon, je n'ai pas mis que ça dépendait de lambda, quand vous faites tendre le signal vers l'infini, ce M+, tend vers zéro, et donc cette difficulté disparaît. D'accord ? Voilà. Donc, oubliez ce petit détail. Cette histoire-là vous retrouve ce qu'on racontait avant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On a ces points stables, et on peut se dire que peut-être que maintenant, on peut zoomer. D'accord ? Donc, je vais vous raconter ça rapidement. Et on va retrouver ce qu'on avait déjà compris. Donc imaginons maintenant que nous soyons, je suis toujours dans ce tensor PCA, je pourrais vous raconter ce qui se passe pour le cas des matrices, mais ça ne sera pas. Donc là, je vous ai donné un système. Ce système-là correspond à la situation standard, la situation sous-critique, où F est là et G et sigma sont nuls. Mais par contre, maintenant, on peut faire un zoom. On zoome sur, par exemple, le point instable 0, 1. D'accord ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire un zoom ici. D'accord ? Donc le point 0, 1, c'est le point où vous êtes à l'équateur et votre point est stable. Donc si vous démarrez de là ou près de là, eh bien, il ne va rien se passer, vous n'allez pas échapper en temps fini. Donc vous pouvez zoomer. Alors la bonne façon de zoomer, ben, on se doute, c'est de prendre mon UN, maintenant un nouveau UN si vous voulez, exactement comme ça. Donc ça sera racine de N fois M. Et R2. Je zoome comme ça, je fais racine de la dimension. D'accord ? Bon. Et si vous faites ça, votre mesure initiale maintenant va être la loi N01 croît la masse de Dirac en 1. D'accord ? C'est-à-dire, une fois que vous avez normalisé par racine de N, quand vous avez pris un point au hasard, disons, revenons sur la sphère, si vous avez pris un point au hasard sur la sphère, sa latitude converge vers 0. Mais si vous la normalisez par racine de N, elle converge vers une loi gaussienne. D'accord ? Donc ça sera une loi gaussienne, et là, vous démarrez de 1, disons. OK, si vous faites ça, vous obtenez un système limite. Donc toujours dans la... Là, par contre, il faut absolument prendre votre delta n critique. Donc il faut prendre le régime critique, pas le régime sous-critique. Et dans le régime critique, vous obtenez une équation plus compliquée, que je ne vais peut-être pas vous écrire, mais qui je vais juste vous dire ce qui se passe. Ce que vous obtenez, c'est un... Donc la limite, c'est un processus de type Ornstein-Uhlenbeck, stable. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Vous avez le théorème avec les fluctuations, le terme de fluctuation stochastique, qui est de rang 1 seulement, qu'on a dégénéré, mais c'est quand même stable. Qu'est-ce que c'est un processus d'Ornstein-Uhlenbeck? C'est un processus où vous avez une agitation brownienne et quelque chose qui vous ramène à la moyenne. D'accord? Et donc ça veut dire que ce système-là, ben, il est stable autour d'un point stable et il ne se passe rien d'intéressant. Ce n'est pas une nouvelle, en fait. On le sait déjà. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'on ne peut pas, avec cet algorithme, trouver le signal, corréler avec le signal, sauf si le signal bruit est très, très grand. D'accord ? Et ici, je suis dans la limite où le signal, rapport signal bruit est fini. Alors, bien sûr, et donc ça, c'est mauvaise nouvelle. D'accord ? Mais vous pouvez, par contre, maintenant, changer d'échelle. Vous pouvez prendre votre lambda, qui est maintenant qui sera une constante, disons lambda, n puissance, par exemple, p moins 2 sur 2, puisqu'on sait que c'est le bon régime. D'accord ? Si maintenant vous mettez un rapport signal bruit qui est plus grand, vous pouvez appliquer exactement le même théorème, et là vous allez voir que vous avez une transition entre un régime qui est stable, de type Ornstein-Uhlenbeck stable, et un régime d'Ornstein-Uhlenbeck instable, suivant la valeur de lambda. Donc quand lambda est plus grand qu'un certain lambda critique. Donc qu'est-ce que ça vous raconte? Quand vous prenez le rapport signal-bruit dans la bonne quantité, vous avez d'abord un régime où votre point stable est toujours stable, Ornstein-Uhlenbeck, et d'un seul coup, il devient Ornstein-Uhlenbeck instable, c'est-à-dire qu'il explose, d'accord, localement. Et donc ça veut dire que vous échappez à l'équateur. D'accord ? Donc on retrouve juste avec ces théorèmes de convergence tout ce que je vous ai raconté sur l'histoire d'échapper à l'équateur. D'accord ? Et précisément au bon truc. Donc d'un certain point de vue, ça vous montre que je ne vais pas vous écrire les détails, mais ça vous montre que ces théorèmes couvrent ce qu'on a compris. Mais bon, il faudrait peut-être faire quelque chose qu'on n'avait pas déjà. Et en particulier, j'ai essayé de vous illustrer cette histoire de zooming. Et quand vous faites ce zooming, pour que ça devienne intéressant, il faut prendre le régime critique, c'est-à-dire il faut prendre un step size grand, le plus grand que vous pouvez pour qu'il y ait un théorème limite. D'accord ? Bon. Et c'est assez naturel, parce que vous voulez échapper à une zone désagréable. Donc il faut faire des pas relativement grands. Alors, maintenant, quand même, ça vaut la peine de donner des exemples un peu plus sophistiqués. Donc je vais vous donner un exemple de classification. Le plus simple possible. Et l'exemple que je vais choisir est un peu idiot parce qu'on n'a pas besoin de prendre quelque chose comme ça pour faire une classification. Je vais prendre la classification binaire. Donc j'ai un mélange de deux gaussiennes. C'est vraiment des... Donc votre loi, c'est un mélange de deux gaussiennes. Et on va prendre la situation la plus simple. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre loi... C'est donné comme un mélange de deux gaussiennes. On va supposer que ces deux gaussiennes... Donc vous avez deux bosses gaussiennes. C'est ça la loi que vous essayez de trouver. On va supposer que ces deux gaussiennes ont une variance connue, pour simplifier, l'identité. Et tout ce qu'on ne sait pas, c'est leur centre. D'accord ? Donc il y en a une qui va être centrée en un vecteur mu, et l'autre qui va être centrée dans un vecteur moins mu, ce qui est parfaitement possible en général. D'accord ? Pardon ? Un demi à demi. D'accord ? Donc... 1,5, ça complique les choses, en fait. Si c'est 1/3, 2/3, c'est plus simple, en fait. Mais 1,5, c'est juste pour avoir un peu plus de sport. Et, mais maintenant, donc c'est ça mes données. Donc mes données, c'est quoi ? Je vais les écrire. C'est des XL, YL. Ça, c'est les gaussiennes. Ça, c'est la classification, c'est le label. Donc YL, c'est Bernoulli. C'est IID Bernoulli de probabilité 1,5. D'accord, donc. Une chance sur deux d'être vert ou rouge. Et puis ensuite, XL est pour loi normale de moyenne 2YL moins 1 fois mu et identité. Et on a normalisé par un lambda qui va me servir de rapport si tel. Vous voyez ce que ça veut dire 2YL moins 1, ça veut dire si YL égale 0, ça a pour moyenne moins mu. Si YL égale 1, ça a pour moyenne mu. D'accord ? Donc vous avez deux bosses gaussiennes, une centrée à moins mu, une centrée à mu. Variance identité, j'ai mis un lambda ici. Donc ça, quand lambda est grand, la variance est petite. Donc quand lambda est grand, mes deux bosses gaussiennes sont très concentrées. Donc ça, la classification ne devrait pas être très dure. Et quand lambda est petit, les deux bosses gaussiennes se mélangent et la classification peut devenir difficile. OK ? Alors, comment on va supposer ici que mu est de norme 1 unitaire. Donc mu, c'est évidemment un signal inconnu. Mu, ça correspond, si vous voulez, au U que j'essayais de chercher tout à l'heure. Alors, maintenant, comment je vais faire ça ? C'est un vrai statisticien ici me dirait, mais t'es fou, c'est pas comme ça qu'on fait, mais bon. Je fais ça pour pouvoir introduire un peu ce qui va se passer dans l'exemple suivant. Alors, je vais le classifier avec un réseau à deux couches, le plus simple possible, enfin, ou à une couche cachée, ça dépend comment vous comptez les couches. Donc, vous avez une première couche d'entrée, ici. Vous avez deux nœuds. Ici, vous avez un... Il y a n. Donc ici, vous avez un premier vecteur, W1, ça c'est le nœud 1, ça c'est le nœud 2. Vous avez un deuxième vecteur, W2. D'accord ? Si vous connaissez ces dessins, ça veut simplement dire que j'ai un vecteur W1, W2 dans Rn. Et sur chaque lien, je mets ici W1, 1, W1, 2, etc. OK ? Et puis ensuite, ici, j'ai deux réels, V1 et V2. Et avec tout ça, je vais fabriquer un nombre. Alors, l'activation que je vais mettre ici, juste pour nous amuser, ça sera G. L'activation que j'utilise ici, c'est la fonction relu, la fameuse fonction relu, qui veut juste dire, comme on l'a déjà dit, X+. Et l'activation que je vais mettre ici, c'est, on va l'appeler sigma, c'est la sigmoïde. Voilà, on prend un exemple déjà qui ressemble plus à ce que vous voyez. OK ? Alors, qu'est-ce que veut dire ce charabia ? Ça me définit en fait une fonction. D'accord ? C'est-à-dire, si je fais des entrées, mais qui sont là, ça me définit une fonction. Comment ? Eh bien, je vais faire, donc, je vais vous l'écrire après. Voilà, ici. Ah, j'ai encore besoin de dire, donc ça décrit mon réseau, ma fonction, et j'ai encore besoin de dire quel loss je vais prendre. La fonction de perte, ça sera la cross-entropie binaire. D'accord ? Donc, bon, j'aurais pu prendre L2, mais on prend la cross-entropie, parce que pour l'histoire de classification, on sait que cross-entropie, en général, c'est mieux. Donc, ça, vous voyez, je prends un exemple de modèle tout à fait simple. Et quand vous faites tout ce calcul, quelle est notre fonction de perte, la fonction grand L avec laquelle on veut travailler? Donc, c'est une fonction de VW. Donc, ici, VW, c'est-à-dire les poids de ce réseau, c'est ça mon X. D'accord? Mon paramètre, c'est cette collection-là. Ça, c'est X. Et il est donc dans l'espace de dimension 2n plus 2. D'accord? Si W est dans Rn, j'ai n, n, 1, 1, donc ça me fait 2n plus 2 pour l'espace de tous mes paramètres. D'accord? Donc ça, c'est le X de tout à l'heure. Le Y de tout à l'heure, c'est maintenant Y grand X. C'est mes données. Donc l'étiquette, le label et la variable grand X. C'est quoi? Quand vous mettez tout ça ensemble, ben vous trouvez que c'est moins Y V, produit scalaire avec grand G de WX. Alors il faut expliquer ce que veut dire ça. Grand X, c'est votre entrée. Grand X arrive là. D'accord? WX, c'est facile. WX, on sait ce que ça veut dire. Mais par contre, G d'un vecteur, il faut juste se rappeler que ça veut dire que c'est pris pointwise. D'accord, quand vous prenez une fonction comme ça d'un vecteur, vous l'appliquez à chaque coordonnée. Et puis après, vous avez, à cause de, vous avez le log de 1 plus exponentielle V G de WX. Voilà. Et en fait, je rajoute, donc j'ai fait un modèle comme ça, mais je rajoute un terme de pénalisation L2, que je vais appeler comme ça. Pourquoi? Ça, c'est pour juste rajouter, faire en sorte, je pourrais me mettre sur une sphère, encore une fois, mais je rajoute un terme de pénalisation L2 parce que je ne veux pas que mes poids, enfin mes paramètres W et grand V, petit V et grand W, pardon, partent à l'infini. Je veux les contraindre, je veux faire en sorte qu'ils soient pénalisés. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est la fonction qui va nous intéresser. Vous avez une fonction maintenant. Et vous essayez de faire le flot de gradient stochastique avec cette horreur. D'accord? Alors la première chose que vous devez faire, c'est calculer bien sûr le grand phi, c'est-à-dire l'espérance de ça. Et quand vous le calculez, vous voyez que c'est une fonction d'un certain u de x. Donc on est dans la situation simple où répondre à ma méta-question est facile. Vous avez, et ce u est de dimension 7. Donc le u ici, c'est de dimension 7. Donc K égale 7, si vous voulez, ici. Ça ne saute pas aux yeux, mais c'est un fait. Donc on n'est plus en dimension 1 ou 2. C'est quoi? C'est V1, V2, ça c'est des paramètres auxquels on ne peut pas échapper, ça c'est ces deux paramètres-là. Et ensuite vous avez M1, M2, R1, 1, R1, 2, R2, 2, et je vais vous dire ce que sont toutes ces bêtes-là. MI, c'est le vecteur WI, produit scalaire avec mu. Donc ça, ça correspond à nos latitudes. D'accord? Tout à l'heure, on avait des latitudes. Ici, c'est la même chose. On a deux latitudes, parce que maintenant, j'ai deux vecteurs. Et les RI, c'est des parties transverses. RIJ, c'est WI orthogonal, produit scalaire avec WJ orthogonal. Et WI orthogonal, c'est WI moins la latitude. OK? Donc vous calculez, vous avez un système en dimension 7. Alors vous pouvez vous amuser à regarder ce qu'on a fait en dimension 7. Et qu'est-ce qui se passe? Oups. Décidément. Dans cette situation-là, ce que vous voyez, c'est que si vous prenez votre step size, qui est d'ordre constante sur la dimension, alors le théorème s'applique. C'est delta n localisable. Cette chose-là, ce U, est une bonne statistique, une summary statistique, le théorème s'applique. Et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez que un système limite qui va être U point égale moins F de U plus un certain G de U, c'est-à-dire que vous obtenez un système, comme je vous l'ai raconté, mais avec un sigma égale 0. C'est un régime balistique. OK? Et je peux vous décrire qui est G, bien sûr. Et le F, c'est celui que vous devinez, c'est la projection du flot gradient. OK, donc maintenant la vraie question, on est dans la même situation que tout à l'heure, la vraie question c'est, dans ce système dynamique limite, où est notre équateur? Où sont les mauvais points, les bons points? Quels sont les points fixes? D'accord? Alors en fait, les points fixes, en dimension 7, ça va être difficile pour moi de faire un dessin, mais on a de la chance. Tous les points fixes sont avec Rij égale 0, vous voyez, mais ce que j'ai appelé là-bas R1,2, R1,1, ils sont tous 0. Et tous les MI doivent être égaux au VI. Donc ça, c'est un point important. Ça vous dit que finalement, pour décrire vos points fixes, au lieu d'être en dimension 7, vous êtes en dimension 2. Donc d'un seul coup, je peux vous faire un dessin. D'accord ? On a en partie choisi un exemple pour qu'on soit en dimension 2, qu'on puisse faire un dessin. Alors, le dessin est le suivant. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais là, je vais vous écrire la limite des points fixes quand lambda est très grand. D'accord ? Donc rappelez-vous, ça veut dire quand mon problème est facile, entre guillemets. D'accord ? Quand vous avez un très fort rapport signal-bruit, c'est-à-dire un faible bruit dans vos gaussiennes. Et là, d'un seul coup, c'est des choses absolument qui ne semblent pas raisonnables, parce que ça, c'est un modèle facile, un système facile, et le système limite est compliqué. Donc ce que vous trouvez, c'est ça. Donc là, je suis dans le plan, je décris tout dans le plan V1, V2. Puisque comme c'est de la dimension... Pour décrire mes points, comme ça c'est 0 et que les m sont v, je choisis comme variable v1 et v2. Ça a cette tête-là. Il y a un quart de cercle. Ah oui, ça c'est si alpha est assez petit, sinon je crois que c'est un quart. Si alpha est trop grand, le système, il est nul, et le point fixe se ratatine sur 0, il ne se passe rien. D'accord ? Donc il ne faut pas que vous régularisiez trop fort. Donc si alpha n'est pas trop grand, vous obtenez ici comme point fixe quelque chose comme ça. Vous avez comme variété composante connexe des points critiques. Vous avez un arc de cercle. Rappelez-vous, en fait, c'est en dimension 7, ça, c'est une projection. Un arc de cercle, un autre arc de cercle dont le rayon dépend de alpha, et trois points comme ça. D'accord ? Ça, ce sont des mauvais points. C'est pas ceux où vous ne voulez pas être. Les bons points, ceux où vous voulez être, c'est celui-là et celui-là. D'accord ? Donc ça, c'est un peu comme notre équateur, ça, c'est un peu comme notre pôle. D'accord ? Et la question maintenant, c'est, quand vous démarrez avec une loi, une initialisation prise au hasard, vers quoi vous allez ? Donc ceux-là sont stables. D'accord ? Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voyez, déjà, c'est plutôt compliqué. Alors, ici, qu'est-ce que vous faites ? Si par manque de chance, vous démarrez près d'ici, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors d'abord, avant ça, qu'est-ce que vous dit le résultat du point de vue... Donc si vous démarrez avec une condition initiale au hasard, d'accord, ben voilà le résultat le plus important, c'est que dans ce régime-là, avec probabilité 1,5, ça c'est vraiment fondamental, avec probabilité 1,5, vous allez converger vers un bon minimum, et avec une probabilité 1,5, votre algorithme va converger vers quelque chose de mauvais. Et vous n'avez aucune façon de le savoir. Sauf à faire du test, bien sûr. D'accord ? Donc là, ça veut vous dire qu'avec... Alors, on n'est pas dans une situation aussi terrible que dans le tensor PCA. La situation est moins grave. Parce que dans le tensor PCA, dans la situation... tant que vous n'aviez pas un rapport signal-bruit très grand, ben, vous convergiez vers quelque chose de mauvais, tout le temps. Mais là, vous avez la moitié des cas qui sont bons et la moitié des cas qui sont mauvais. Ce qui est plutôt... désagréable, parce que vous ne savez pas lequel. Alors, quand ils sont mauvais, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous aboutissez près d'un point proche de si. D'accord ? Alors, si vous avez un point près d'ici, qu'est-ce que vous devez faire ? Ben, vous devez zoomer, vous devez mettre une loupe et réappliquer le théorème. Alors, je vais vous le dire en mots, parce que ça, il commence à être tard. Donc, vous faites un blow-up, comme ça, un zoom. Pareil, avec l'échelle n puissance moins 1,5, la même échelle que tout à l'heure. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez maintenant non plus un régime balistique, vous voyez un régime diffusif. Vous avez un G, mais vous avez aussi un sigma. Donc ce qui vous permet ensuite de comprendre comment vous allez vous éloigner de ces mauvais points, c'est une diffusion. Mais cette diffusion est dégénérée. Ici, on est en dimension 2, et la diffusion est de rang 1. Donc c'est une diffusion, la matrice de diffusion est de rang 1. Donc la façon dont le bruit vous permet de vous échapper est contrainte. D'accord ? C'est une trajectoire parfaitement particulière. D'accord ? Donc vous pouvez aller très loin, expliquer tout ça. Ça, c'est dans la limite quand lambda tend vers l'infini. Et bon, tout ça, c'est détaillé dans le papier si vous êtes curieux pour cette équation différentielle stochastique. Et je vais terminer avec des mots. Maintenant, enfin, avec un autre. Tout ça, c'était pour préparer un autre modèle. Alors, l'autre modèle, c'est un modèle classique, c'est le modèle de XOR, donc le OU exclusif. Donc, vous connaissez la table de vérité du OU exclusif, c'est ces deux-là vont ensemble et ces deux-là ne vont pas ensemble. D'accord ? Vont ensemble aussi. Donc, vous avez 1, 1, 0, 0. Donc, maintenant, vous faites un mélange, si vous voulez, l'équivalent d'un mélange de gaussienne, mais vous avez 4 points comme ça, au lieu de 2, comme dans le mélange de gaussienne. Et vous appliquez un algorithme similaire, le même genre de réseau, et vous essayez de voir ce qui se passe. D'accord ? Donc la différence avec ce que j'ai fait ici, j'ai pris le même, si vous voulez, le même genre d'algorithme, mais j'ai pris mes données, ma loi de ma distribution de probabilité plus complexe, plus structurée, avec plus de choses dedans. D'accord ? Alors je vous passe tout ça, c'est dans le papier, vous pouvez regarder. Je vous dis juste pour pouvoir terminer vite. Si vous regardez, vous êtes dans une situation similaire à celle-là, où votre fonction, je ne vais pas vous écrire la fonction parce qu'elle est pénible, mais votre fonction de coût est en fait une fonction d'une projection de rang fini qui est de dimension 22. D'accord ? Donc vous faites un calcul, vous avez 22 variables. Et quand vous avez fait vos 22 variables, après, vous pouvez vous amuser. L'étape d'après, vous avez donc un système dynamique, aussi dans un régime balistique non diffusif. Vous n'avez pas de sigma, avec un step size qui est constante sur la dimension. Vous obtenez quelque chose de similaire, plus compliqué calculatoirement. Et quand vous regardez les points critiques, dans cette dimension 22, les composantes connexes des points critiques, vous en avez 625. Donc là, d'un seul coup, vous dites ah, « qu'est-ce que je fais avec 625 composantes connexes ?» Après, vous pouvez. Donc, comme ici, vous voyez, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5. Mais après, vous pouvez vous amuser à dire, mais OK, j'en ai 625, mais combien il y en a de stables ? Ici, j'en avais 2. Il y en a 24. Et après, vous pouvez vous poser la même question ici, avec probabilité 1,5. J'étais dans le bassin d'attraction de celui-là ou celui-là, avec un probabilité 1,5, j'étais dans les mauvais. Dans cette situation-là, ce n'est pas 1,5, 1,5. Il n'y a aucune raison que ce soit 1,5, 1,5 en général. C'est 3, 32e. Vous imaginez qu'il y a du calcul derrière ces nombres-là. D'accord ? Donc avec probabilité 3 sur 32, 1 sur 10, votre algorithme converge vers les bonnes choses. 9 sur 10, il fait n'importe quoi. Il va vers les mauvaises composantes connexes. Quand vous en avez 625, c'est un peu sportif. D'accord ? Après, vous pouvez zoomer de la même façon. Alors, heureusement, il y en a 625, mais il y a des symétries, parce que sinon, s'il fallait avoir inventé 625 zooms différents et 625 équations différentes, on aurait craqué. Mais il y a beaucoup de symétries, et tous ces zooms sont faisables. Et ils ne sont pas tous faits avec la même... Ici, par exemple, j'ai zoomé en n puissance moins 1,5. Dans cette situation-là, ce n'est pas nécessairement la même façon de zoomer. Vous avez systématiquement l'apparition d'un terme diffusif qui vous explique comment vous échappez aux mauvaises composantes connexes. Et ce terme diffusif, systématiquement, est dégénéré. Et je ne sais pas pourquoi, ça. Je ne vois pas trop pourquoi ça serait comme ça, mais c'est comme ça, dans tous les exemples. D'accord ? Donc voilà, si vous voulez voir un exemple un peu plus standard, et vous avez cette situation insensée, mais qui est là. Bien entendu, cette situation, elle est si vous prenez le régime critique. D'accord ? Tous ces zooms et tout ça, ça va être des régimes critiques. Si vous prenez le step size plus petit, vous perdez tout ça et vous ne pouvez pas vous échapper. D'accord ? Quand vous prenez un step size sous-critique, vous pensez TensorPCA, vous n'avez aucune façon de vous échapper. Il faut rajouter des termes pour pouvoir s'échapper. Il faut regarder de plus près, en quelque sorte. OK ? Donc c'est pour ça que ces régimes, on a appelé ça des limites, des dynamiques effectives. Et c'est le régime critique qui vous permet de comprendre comment vous sortez des endroits pénibles. Alors évidemment, ce que je viens de vous raconter, c'est deux exemples. Sur un exemple générique, j'imagine classifier tout ça, c'est infaisable. Et il faudra probablement comprendre un peu mieux le lien entre ce paysage et la fonction dont on part, quoi. La fonction phi. D'accord. La loi qui encode bien sûr la probabilité de distribution P qui est cachée derrière ça. C'est-à-dire l'objet qu'on cherche à estimer. D'accord. Donc il y a encore beaucoup de travail. Vous êtes tous bienvenus à essayer de le faire avancer.
Merci beaucoup.